Bonjour, je m'appelle Bob Braque de La Perrière, je travaillais dans une organisation qui s'appelle BD, BD Biodiversité, Échange et Diffusion d'Expériences, qui était une organisation de solidarité internationale très engagée dans le soutien des collectifs d'agriculteurs pour qu'ils maintiennent la biodiversité cultivée dans leurs champs. Et nous travaillons à la fois au Maghreb, en Afrique de l'Ouest et en Europe. À ce moment-là, il y avait des demandes de la part des agriculteurs, des collectifs, sur des questions qu'ils n'arrivaient pas à résoudre, et il y avait besoin d'un surplus de connaissances. Disons que les savoirs et savoir-faire existent, mais il y a des choses qu'on n'arrive pas à résoudre. Et là, on a fait appel à des chercheurs. Deux chercheuses d'ailleurs qui ont accepté de monter un projet de recherche qui s'appelait les laboratoires hors mur pour l'agrodiversité. C'était en 2013. 2013-2015, on a monté ce laboratoire hors mur, LHM, qui a été dans trois pays, en Algérie, au Bénin et en France, avec différents collectifs pour essayer de répondre aux priorités des agriculteurs et des agricultrices qui se posaient des questions et qui voulaient essayer d'amener en fait les chercheurs qui étaient dans leur tour d'ivoire. Voilà, donc là, le truc, c'était comment faire pour que les chercheurs aillent sur le terrain et discutent sur les priorités des agriculteurs et des agricultrices. Le laboratoire hors mur, au bout de 2 ans, comme tout projet, s'est arrêté. Plus de financement. Plus de financement, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que où, comment on va continuer? Et c'est à ce moment-là, avec Pascal Maizy, qu'on s'est demandé comment on va faire pour trouver un espace de concertation, de mobilisation des chercheurs autour des questions que posent les organisations paysannes sur leurs différents terrains. Et on a pas mal réfléchi, vadrouillé, avant de croiser la Maison des sciences de l'homme, ici, qui, avec son projet et son mandat science-société, apparaissait être, disons, un lieu possible pour pouvoir réfléchir à cet espace, un de concertation, mais aussi un espace sécurisé. Je veux dire sécurisé parce qu'il faut que les paysans et les paysannes n'aient pas l'impression soit d'être méprisé, soit que ça soit un lieu de chercheurs, il fallait que ça soit un lieu accueillant. Et il fallait aussi que ça puisse qu'on puisse travailler dans la pérennité. Et le fait de le faire ici, dans Montpellier, ça avait l'intérêt de pouvoir bénéficier plus facilement, en fait, de la communauté, en particulier d'Agropolis et des universités qui sont pas loin, quoi. Et donc, on s'est trouvé à la croisée des chemins, en fait, entre la volonté de la MSH, je ne peux pas le raconter, mais les gens de la MSH pourront le raconter. C'est-à-dire que comment eux, à l'intérieur de leur intérêt institutionnel, programmatique, ils pouvaient héberger cet espace-là. Et nous, à la fois société civile et chercheurs, chercheuse, puisque c'était Pascal Maizy, qui est anthropologue, professeur à Supagro, qui a poussé aussi avec moi cette demande. Et dans cette réflexion, on s'est dit, mais est-ce que ça existe déjà? Et Pascal, qui était aussi à Sciences Citoyennes, dans l'association Sciences Citoyennes, a dit, mais dans Sciences Citoyennes, il y a les boutiques des sciences. Ça existe ailleurs. Ça existe à Lyon, ça existe à Lille. Pourquoi on n'en ferait pas une boutique des sciences? Donc, on s'est rapproché de l'association Sciences Citoyennes. Ça s'appelait la Fondation Sciences Citoyennes à l'époque. Nous sommes donc en 2017 et Sciences Citoyennes nous explique que oui. Et que ça nous appartient à nous de définir un peu ce qu'on veut, parce que les boutiques des sciences, il y en a plein, de différentes, c'est pas fréquent en France, même c'est un peu rare. Hein. J'en ai eu deux ou trois expériences qui ont avorté à Cachan, en Grenoble, etc. Mais ça existe, mais c'est très fréquent dans d'autres pays d'Europe du Nord, en particulier en Hollande. Il y en a des dizaines et des dizaines. Donc il fallait simplement qu'on définisse ça. Et il nous aide à faire un montage participatif, discutant, pour pouvoir avancer là-dessus. Et là-dessus, il y a eu des assises, sciences société. C'était en juillet 2017. Nous, on s'est dit, ben, on va faire l'atelier de préfiguration pendant les assises. Et on a donc fait l'atelier de préfiguration où on a commencé à sortir des scénarios possibles de cet espace et de la gouvernance, c'est-à-dire comment est-ce qu'on voulait que ça fonctionne. Et nous, en tant qu'organisation de la société civile, on était partie prenante pour que ça soit vraiment équilibré, parce qu'on ne souhaitait pas absolument que ça soit un lieu qui était trop académique, trop de recherche, parce qu'on n'aurait pas notre mot à dire de son fonctionnement. Donc on a beaucoup insisté là-dessus. Les petits débrouillards ont été associés assez rapidement. Et finalement, on a installé la boutique des sciences de Montpellier s'est installée en juillet 2017. À ce moment-là, mon organisation BD a décidé de sortir en fait du comité de pilotage, parce qu'il fallait qu'on fasse, comme disait Julien Marie, la preuve du concept. C'est-à-dire, est-ce que ça va marcher ? On a défini un dispositif, mais pour le faire marcher, il faut mettre du carburant. Et le carburant, c'était un projet, des projets. Et donc, on a fait le premier projet. Le premier projet, on l'avait sous la main avec un collectif de Montpellier, un collectif agroécologie paysanne, avec 6 ou 7 organisations de la société civile. À ce moment-là, la métropole de Montpellier avait décidé de sa politique, d'une politique ouverte à une agroécologie, et pour nourrir le territoire. Et on s'est dit, ben voilà, nous, on a, dans un manifeste, dit, voilà le type d'agroécologie que nous voulons pour nourrir le territoire. Aidez-nous, chercheurs, à défendre, en fait, notre manifeste, quasiment. Et donc, en 2018, quand la boutique est installée, on introduit le premier projet agroécologie à des chercheurs intéressés. Et là, on s'est aperçu que on était loin de monter un projet de recherche avec ça, quoi. Il fallait, les chercheurs, ils ne comprenaient pas qu'est-ce que ça veut dire que vraiment agroécologie paysanne. Qu'est-ce que ça veut dire que nourrir le territoire? Quel territoire vous définissez? Enfin bon, bref, toutes des questions que les chercheurs sont capables de faire préciser. Mais ça prend du temps de le faire avec un collectif. Et ça a pris du temps, effectivement. Et donc, l'une des façons de préciser ça, ça avait été d'adjoindre des étudiants en master. Et ce sont des étudiants en master qui ont commencé à travailler là-dessus pendant 6 mois, 1 an, et qui ont permis, en fait, de mieux définir les questions qui pouvaient être des questions de recherche intéressantes les chercheurs. Et en particulier, on a proposé d'aller dans une prospective, comment nourrir les territoires d'Occitanie en agroécologie paysanne en 2050. Et donc là, on rentre dans autre chose, ça veut dire qu'on intègre la question climat, on intègre la question post-pétrole, on intègre ces choses-là, et ça devient vraiment une question de recherche pour tout le monde. Ce projet, vous voyez, on l'a lancé, disons que le début de l'initiative, c'était 2018. Et ben, il a fallu plusieurs étapes pour pouvoir avancer. Il a été retoqué une première fois pour des financements, parce que dans sa formulation, ce n'était pas encore mûr. Et en 2020-2021, il a été reformulé sous le terme de FAPO. Vous le verrez sur la fresque là-haut. Et par un autre groupe, ça veut dire que ce n'était plus les mêmes chercheurs tout à fait, ce n'était plus tout à fait le même collectif, puisqu'il avait été élargi au réseau Impact d'Occitanie, donc c'était un autre groupe. Et puis finalement, en 2021 ou en fin 2020, il a été reproposé et il est financé et il fonctionne maintenant. Bon, moi, je veux dire juste en conclusion que mon sentiment, en fait, apparaît toute cette histoire, c'est que ben, c'est une réussite quand même. On peut dire que c'est une réussite parce qu'on a pu quand même, très rapidement quand même, ça s'est installé entre 2017 et 2018, en un an, l'espace a été mis en place. Ça, c'est vraiment, je crois, quelque chose de bien. C'est un dispositif qui est accueillant pour la société civile, donc ça, c'était aussi bien, avec une gouvernance partagée, c'était ce qu'on voulait. Bon, on a vu aussi qu'il avait la capacité de mobiliser des chercheurs nouveaux, d'en identifier des nouveaux par rapport à des questionnements, donc ça aussi, c'était bien, puisque les chercheurs qui ont été mobilisés, en particulier dans FAPO, les nouveaux, bah, ils n'étaient pas du tout à l'origine. Et on voit aussi, là le constat il est clair, c'est que le temps, c'est un temps de concertation qui est long. C'est-à-dire qu'entre l'idée première de ce qu'on a pensé, de l'enjeu qu'on a lancé, qu'en tant que société civile on porte, et le moment où c'est traduit dans un projet de recherche, et qu'il y a des résultats au bout, ben il faut compter 4-5 ans. C'est-à-dire que c'est long. C'est long, c'est-à-dire que si on veut avoir le résultat tout de suite, ben, on n'y arrive pas. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que oui, ce mécanisme est important. C'est vraiment une fierté qu'on devrait avoir, et on devrait le faire mieux connaître, d'avoir cet espace-là à Montpellier, parce que c'est quelque chose qui est encore pas bien connu. Et en même temps, bon, on a besoin, bien sûr, d'améliorer, de rendre plus transparents les mécanismes, d'éviter les lourdeurs, tout ce qui fait un petit peu usine à gaz, pour pouvoir rendre le fonctionnement et le dispositif suffisamment clair pour que les gens de la société civile aient envie de venir et de travailler dans de la co-construction de connaissances avec les chercheurs. Merci.
Merci beaucoup. Ça mérite un petit applaudissement quand même. Merci. Alors moi, je vais vous parler de la manière dont Trade Union et la MSH collaborent, cohabitent, et des liens qui existent. D'abord, peut-être pour rappel et pour prolonger ce que Robert disait tout à l'heure, la MSH, c'est une unité d'appui et de recherche. Et on s'attache à trois grands enjeux, en particulier stimuler sur le site d'Occitanie de l'Est, c'est-à-dire la communauté de recherche de Montpellier et allant jusqu'à Perpignan et Nîmes, un ensemble d'institutions de l'enseignement supérieur et de la recherche en Occitanie de l'Est, de stimuler les dynamiques interdisciplinaires et les capacités, renforcer la capacité des chercheurs à s'inscrire dans des projets interdisciplinaires, à les monter, à les mettre en œuvre, à les valoriser et à pleinement considérer que la recherche interdisciplinaire fait partie de la recherche d'excellence aussi. L'autre axe sur lequel on travaille, c'est tout ce qui va toucher à la transdisciplinarité, c'est-à-dire ouvrir le monde de la recherche au reste de la société, accepter que le monde de la recherche fait pleinement partie de la société et que, compte tenu des enjeux sur lesquels on travaille, en particulier ici en Occitanie de l'Est, des enjeux forts autour des transitions alimentaires, agroécologiques, énergétiques, etc., et puis tous les enjeux de santé également, il y a besoin de produire des connaissances multiples du monde académique, bien sûr, mais que ça ne suffira pas pour mener des recherches qui aient vraiment du sens sur ces grands enjeux, qu'on a besoin de la société civile, du monde associatif, des acteurs politiques, de certains acteurs privés aussi, et qu'on s'inscrit tous dans une dynamique de co-recherche où on produit les connaissances, et ça vient bousculer en fait les habitudes des chercheurs, parce qu'ils sortent de leur tour d'ivoire, comme le disait Robert. Et au-delà de ça, la gouvernance de la recherche, les modalités de production des savoirs sont sérieusement bousculées par rapport au code du monde académique. Et le dernier axe sur lequel on travaille à la MSH, c'est de renforcer et favoriser toutes les dynamiques de sciences ouvertes en créant de nouveaux médias, en créant de nouvelles modalités d'édition et de mise à disposition des données. Tout ça est très lié aussi, ça permet de créer des outils dont on se sert dans les recherches interdisciplinaires et transdisciplinaires. Dès lors, ce qui se joue dans Trait d'Union, cela vient vraiment faire écho à cette intention forte de la MSH Sud de venir en fait accompagner, épauler les chercheurs du site d'Occitanie-Est pour qu'ils s'inscrivent le plus confortablement possible et avec le plus de justesse dans ces dynamiques interdisciplinaires et transdisciplinaires. C'est la raison pour laquelle, je pense, dès le démarrage, dès 2017, avec cette espèce d'alignement des planètes qui s'est passé, en fait, au moment des Assises Sciences-Société, le référent scientifique de la MSH Sud, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais qui est là en pensée, certainement, Julien Marie, s'est démené pour que ce projet de boutique des sciences émerge et trouve toute sa légitimité dans le monde académique aussi. Et donc, depuis 2018, l'émergence de la boutique des sciences, avec toute cette histoire que Robert a racontée autour de l'émergence de projets structurants qui faisaient justement cette fameuse preuve de concept qui démontrait que oui, il y a des enjeux forts, oui, il y a besoin de ce type de dynamique, et oui, les chercheurs peuvent trouver pleinement leur place et leur légitimité aux côtés d'autres acteurs de la société civile dans ce type de production de savoir. Pour répondre aux grands enjeux des transitions. Et depuis, en fait, la MSH Sud s'appuie aussi sur Trait d'Union pour faire la preuve de concept et pour démontrer que c'est possible, qu'il y a moyen de réaliser de grandes choses et de les valoriser aussi dans le monde de la recherche. L'expérience Trait d'Union pour la MSH Sud est une source d'inspiration permanente. Et on est ravis de vous accueillir aujourd'hui aussi pour cette journée où on va revisiter ce qu'il s'est passé depuis 2018 et se projeter dans l'avenir, parce que au-delà de ce qui se joue dans Trait d'Union entre le secteur associatif et le monde coopératif et le monde académique, il y a beaucoup d'autres enjeux et on apprend énormément de l'expérience de Trait d'Union. Par exemple, on a appris que dans ces dynamiques de traduction bilatérale entre les questions que se posent les acteurs du monde associatif, la manière dont les acteurs académiques, les chercheurs vont traduire ça en questions de recherche, le retour de cette traduction, voir si les résultats de la recherche, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment pleinement les valoriser au-delà d'une dynamique descendante où les chercheurs viendraient expliquer aux acteurs associatifs ce qu'il faut faire, mais dans une réelle dynamique de co-construction et de co-recherche, on s'est rendu compte, par exemple, depuis 5 ans, qu'il était nécessaire d'adapter la méthode, le cadre, la construction d'un espace de confiance, de co-construction, selon les types, enfin, au type d'acteurs auxquels on s'adresse et qu'on accompagne. On n'accompagne pas en même temps et de la même manière et de manière homogène et intégrée des acteurs publics, par exemple, et des acteurs associatifs qui s'intéressent aux mêmes enjeux, mais avec une forte asymétrie en termes de risque de rapport de force, etc. Ça, on l'a appris, par exemple, dans le cadre du montage du projet MAP, qui s'intéresse aux enjeux de conservation des oiseaux et des populations aviaires au niveau des parcs éoliens en Occitanie. Donc il y a là le rapport de force entre les acteurs privés, les acteurs publics, les acteurs associatifs demandent un savoir-faire d'intermédiation d'accompagnement, une véritable recherche d'accompagnement avec ses codes, avec ses méthodes, avec ses cadres épistémologiques aussi. Et ça fait partie des choses qu'on a appris de Trait d'Union et que l'on essaye d'appliquer à la MSH Sud en créant des dispositifs dédiés à l'accompagnement des acteurs publics, par exemple, ou aux collaborations avec les acteurs privés. D'autres choses qu'on a apprises également, c'est la question en fait de ce risque d'asymétrie qui persiste malgré toutes les bonnes intentions du monde. Le risque d'asymétrie entre acteurs associatifs et acteurs académiques est toujours là et on compose avec ce risque au fil des projets, au fil même de la vie des comités de pilotage de Trait d'Union. C'est un objet sur lequel on travaille conjointement. Ça nous a permis, par exemple, aussi de faire émerger, avec certains partenaires, qui sont d'ailleurs ici dans la salle aussi, du secteur associatif, avec l'Alliance Sciences-Société Alice également, avec la complicité aussi d'un tas de chercheurs, de l'INRAE, du CIRA, de l'Université de Perpignan, de faire émerger un réseau, le réseau RAPSO, qui s'intéresse en particulier à ces asymétries et à la manière de les dépasser. Comment faire au niveau des cadres même de financement des co-recherches, comment faire en sorte que les acteurs associatifs soient réellement sur un pied d'égalité avec les chercheurs? Comment dépasser la vision qui est de traduire les besoins du monde associatif en question de recherche pour le monde académique et s'inscrire pleinement dans une co-construction des enjeux qui n'est pas pour seule finalité et comme l'aboutissement de la démarche, d'avoir un projet de recherche académique bien ficelé, d'être toujours dans cette bilatéralité et cette symétrie. À nouveau, je pense que ce que l'on vit aujourd'hui, et ce n'est peut-être pas du coup un hasard que ce soit maintenant, 5 ans après le démarrage, qu'on organise cette session avec vous pour réfléchir à la vision d'avenir de Trait d'Union et faire un peu le bilan, c'est qu'à nouveau, on a un petit alignement des planètes dans la mesure où, au niveau du ministère de la Recherche, une loi de programmation incite fortement, on est même dans le cadre d'une injonction du ministère de la tutelle des chercheurs, à travailler, à faire des recherches avec, par et pour la société. Cette loi de programmation de la recherche, elle nous donne un cadre de travail inédit, justement pour creuser, renforcer et légitimer pleinement l'éco-recherche et ce qui peut se faire à l'interface entre le monde académique et le reste de la société. Donc, depuis le début, on est dans cette optique à la MSH, mais avec la complicité de tous les membres du comité de pilotage de Trait d'Union. On est dans cette logique de preuve de concept parce qu'on sait qu'on a besoin quand même on est encore dans le besoin de convaincre, de démontrer, de légitimer ce type de démarche auprès des bailleurs de fonds, de ceux qui nous financent, auprès des tutelles du monde académique et peut-être aussi auprès des membres de la société civile et d'une partie du secteur associatif également. Donc cette preuve de concept, on va continuer à la mener et on espère bien, avec votre complicité à toutes et tous ici, monter en volume et gagner de plus en plus en légitimité et d'être dans le juste par rapport à ce qu'on fait et en trouvant pleinement la place de chacun dans ces dispositifs et en les valorisant du mieux qu'on peut. On a encore beaucoup de travail à faire. On est peu nombreux finalement à s'atteler à cela. Et donc j'espère que ce qui va vous être présenté aujourd'hui, notamment un retour sur l'évaluation qui a été faite de ces 5 premières années de travail ensemble, va nous inspirer pour avoir une super feuille de route et continuer à aller plus loin ensemble. Plus lentement, c'est vrai, parce que ça prend du temps, mais aller loin et aller avec en maintenant nos intentions de départ qui restent toujours d'actualité. Voilà.